Merci à tous d'écouter RFI, Radio France Internationale. Il est 8h à Port-au-Prince et 13h en temps universel. Une demi-heure sur le continent américain avec à la une la montée vertigineuse de la violence dans la capitale haïtienne. C'est ainsi que la presse qualifie les derniers événements, les derniers assauts des gangs, notamment contre le quartier de Solino, désormais entièrement sous leur contrôle. Dans quelques minutes, témoignage d'un habitant qui a dû fuir dans la précipitation et qui a perdu plusieurs membres de sa famille en seulement quelques jours. Reportage également aux États-Unis après les nominations de la future équipe Trump. Reportage également au Canada, où l'on essaye de protéger les belugas et les baleines du fleuve Saint-Laurent. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises. Tessa Gromann, le leader du mouvement contre la vie chère en Martinique, n'est plus en garde à vue.
Rodrigue Petitot est ressorti libre, mais sous contrôle judiciaire. Il sera jugé en comparution immédiate cet après-midi pour s'être introduit sans autorisation dans la résidence du préfet lundi.
A tout à l'heure. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Anne et bonjour à vous qui nous écoutez.
Avec à la une la justice française qui ordonne la libération d'un militant pro-palestinien après 40 ans de détention.
Georges Ibrahim Abdallah avait été condamné à la perpétuité pour complicité dans l'assassinat de deux diplomates. Selon ses soutiens, il serait le plus vieux prisonnier au monde lié au conflit au Moyen-Orient. Donald Trump complète un peu plus sa future administration. Dans ce journal, on se penche sur la nomination du prochain secrétaire d'État à l'intérieur, Doug Burgum, gouverneur du Dakota du Nord, un proche de l'industrie des énergies fossiles. Au sommaire également de ce journal, on ira en Espagne, où le président de la région de Valence s'excuse devant le Parlement local. Il est très critiqué pour sa gestion des inondations meurtrières du mois dernier. Et puis en France, Michel Barnier tente de rassurer les collectivités locales. Le Premier ministre promet moins de coupes dans le budget des départements.
Voilà, on commence donc votre journal, Arthur. En France, où le tribunal d'application des peines ordonne la libération d'un militant pro-palestinien.
40 ans que Georges Ibrahim Abdallah est emprisonné pour complicité de meurtre. Bonjour Marie Cazadebé.
Bonjour.
C'était la 11e demande de libération conditionnelle de ce militant libanais pro-palestinien qui était libérable depuis 1999.
Oui, la 11e demande de ses avocats qui sera donc la bonne, a priori. Georges Ibrahim Abdallah devrait pouvoir quitter la prison de Lannemezan dans le sud-ouest du pays le 6 décembre prochain, à la condition qu'il quitte le territoire et n'y reparaisse plus. Le parquet national antiterroriste a déjà fait appel de cette décision. Cela fait pourtant 25 ans, vous l'avez dit, que le militant libanais est libérable, mais jusqu'à maintenant, toutes ses demandes ont été rejetées ou rendues impossibles. Son sort avait fini par émouvoir des militants du Parti communiste français et des mouvements d'extrême gauche qui dénonçaient un acharnement et le qualifiaient de prisonnier politique. Georges Ibrahim Abdallah a été condamné en 1986 à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de deux diplomates, un Américain et un Israélien. Quelques années plus tôt, cet ancien instituteur avait cofondé les Fractions armées révolutionnaires libanaises, un groupuscule pro-syrien et anti-israélien à l'origine de 5 attentats, dont 4 mortels en France au début des années 80. À 73 ans, Georges Ibrahim Abdallah aura passé plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux. Il est l'un des plus vieux détenus de France.
Marie Cazadebé du Service France de RFI. Au Proche-Orient, le Hamas se dit prêt à un cessez-le-feu à Gaza. Déclaration ce matin d'un membre de son bureau politique qui poursuit en appelant les États-Unis et Donald Trump à faire pression sur le gouvernement israélien pour, je cite, arrêter l'agression dans l'enclave palestinienne.
Donald Trump enchaîne de son côté les nominations pour constituer sa future administration.
Dernière en date, celle du prochain secrétaire d'État à l'intérieur, un poste qui sera occupé par Doug Burgum, l'actuel gouverneur du Dakota du Nord, devra appliquer le programme de Donald Trump contre les mesures de protection de l'environnement. Des terres protégées pourraient notamment être ouvertes à l'exploitation pétrolière et gazière. Et Nicolas Rocca, c'est un homme très lié à l'industrie de l'énergie fossile qui prendra la tête de ce secteur en janvier.
Après avoir fait le lien entre la campagne républicaine et les entreprises pétrolières, Doug Burgum va diriger la politique énergétique des États-Unis. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce jeudi en Floride Donald Trump.
Je ne vais pas vous dire son nom. C'est peut-être quelque chose comme Burgum. Il vient du Dakota du Nord. Il va être nommé à un poste très important demain. Tout le monde l'attend. Il est là. Salut Doug. On va faire des choses sur l'énergie, sur les territoires qui seront incroyables. D'ailleurs, j'ai hâte de faire la annonce officielle, même si c'est déjà une annonce. En fait, je le dis, il va prendre la tête du secrétariat à l'intérieur et il sera fantastique.
Un poste qui le rendrait compétent sur l'exploitation des ressources naturelles, la gestion des parcs nationaux ou encore des eaux côtières, des territoires que Donald Trump veut exploiter pour son programme énergétique qu'il a résumé à la Convention républicaine en juillet. Un slogan qui signifie l'extension du forage pétrolier, l'objectif divisé par deux la facture énergétique des Américains, une promesse de campagne. Et qui mieux que Doug Burgum pour y parvenir, le gouverneur est un très proche d'Harold Hamm, milliardaire à la tête de Continental Resources, l'une des plus grandes entreprises pétrolières du pays et un très généreux donateur de la campagne de Donald Trump.
Nicolas Roca.
Pendant ce temps, Joe Biden entame lui sa tournée d'adieu en Amérique du Sud.
Le président américain a atterri à Lima, au Pérou, pour assister au sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, l'APEC. Il doit notamment y rencontrer Xi Jinping demain.
En Espagne, une prise de parole qui était très attendue. Le président de la région de Valence était tout à l'heure devant les représentants du Parlement régional.
Le Carlos Mazón reconnaît des erreurs lors des inondations meurtrières du mois dernier et présente ses excuses alors que sa gestion de la crise est très critiquée par les sinistrés. Mais le dirigeant de droite est catégorique, il ne démissionnera pas. À Madrid, François Musso.
Certes, il y a eu des dysfonctionnements dans mon exécutif le jour fatidique du 29 octobre, lorsqu'une quinzaine de communes valenciennes ont été inondées par la terrible goutte froide. C'est ce que le libéral Carlos Mazón a reconnu, sans davantage entrer dans les détails. Là où le dirigeant de droite, qui d'après la loi dispose de tous les pouvoirs en cas de catastrophe naturelle, s'est étendu, c'est pour rejeter la faute sur les autres, surtout sur les administrations de l'État. Contre la Confédération hydrographique, qui pourtant dit lui avoir envoyé une centaine de courriers électroniques ce jour-là, contre l'Agence météorologique nationale, qui pourtant, tôt le matin, conseillait aux gens de ne pas sortir de chez eux. Pas un mot en revanche concernant son repas, le jour fatidique, qui a duré 3 heures avec une journaliste, et son arrivée 2 heures en retard au comité de crise à 19h30, lorsque la plupart des communes étaient sous les eaux. En clair, Carlos Mazón non seulement refuse de démissionner, mais il contre-attaque en remaniant son exécutif avec, par exemple, un nouveau ministère de la Reconstruction, et aussi une promesse, la mise en place d'une commission d'enquête sur la désastreuse gestion de la pire catastrophe naturelle en un demi-siècle en Espagne. François Musso, Madrid RFI.
Retour en France où Michel Barnier tente de rassurer les présidents des départements.
Le Premier ministre était ce matin aux assises des départements de France, des collectivités très inquiètes de l'effort budgétaire qui leur est demandé dans le projet de loi de finances. Moins 2,2 milliards d'euros l'an prochain. Sauf que, face à la colère des élus, Michel Barnier promet de revoir sa copie, Raphaël Delvolvé.
Pas de chiffres précis, mais un engagement ferme du Premier ministre.
En tenant compte de votre situation très spécifique, qui n'a peut-être pas été bien vue dans les premiers scénarios budgétaires, que nous allons réduire très significativement l'effort qui vous est demandé.
Michel Barnier l'a répété une nouvelle fois, son projet de budget a été ficelé en à peine 3 semaines. Pas suffisant pour prendre en compte les difficultés auxquelles les départements sont confrontés, chute des revenus et hausse des dépenses en grande partie liées au vieillissement de la population française, mais aussi à la chute des ventes immobilières. Le chef du gouvernement a évoqué des pistes issues de rencontres avec les représentants des départements, comme la hausse des frais de notaire ou encore la baisse des contributions obligatoires à certains fonds gérés par l'État. Il renvoie aux travaux du Sénat, qui a désormais la main sur le budget rejeté cette semaine à l'Assemblée nationale. Toutefois, Michel Barnier maintient ses grands objectifs initiaux.
Je ne suis fermé à aucune évolution de ce budget. Dès l'instant, cet objectif de 5% est préservé.
Le Premier ministre n'est d'ailleurs pas revenu sur l'effort global demandé aux collectivités locales. 5 milliards d'euros d'économies sur un total de 60 milliards.
Raphaël Delvolvé du service politique de RFI. Et je vous laisse tout de suite avec Anne Cantner pour la suite d'RFI Midi.
Merci Arthur Ponchelet. Nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes. Dernière partie d'RFI Midi et nous prenons d'abord la direction d'Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Avec une nouvelle fois les mêmes scènes de détresse dans la capitale. Les pleurs, les yeux hagards de ceux qui doivent quitter leur maison à la hâte pour échapper aux gangs. Désormais, le quartier de Solino est totalement sous la coupe de la coalition criminelle Vivre Ensemble. Et des centaines de familles ont aussi quitté hier Delma 30, Nazon ou encore Christ Roy, de peur que leur quartier ne devienne les nouvelles cibles. Tout le monde fuit. Les enfants, les vieillards, les adultes, eux, portent sur le dos le peu qu'ils ont pu prendre. Un sac de vêtements ou un petit meuble, certains marchant même très péniblement sous le poids du matelas sur leur tête. Wilson Gustave Collin fait partie de ceux qui ont tout perdu. Il a perdu sa maison et plusieurs membres de sa famille en seulement quelques heures. Il s'est confié à Vincent Souriau.
Le 17 octobre, c'est l'entrée triomphale du groupe terroriste maintenant dénommé Vive Ensemble, donc le regroupement d'un ensemble de groupes criminels qui tuent, qui brûlent et qui tirent sur tout ce qui bouge. C'est la date où il y a eu une attaque ultime du groupe et Vive Ensemble sur la zone et qui a fait pas mal de dégâts.
Y compris votre domicile?
Y compris, bon, oui, et mon domicile et à Solino et ma famille. Je viens de perdre un frère aussi. Normalement, avant 17 octobre, la zone de Solino vivait déjà sous tension. Mais à partir du 17 octobre, il y a eu une sorte d'avancée des groupes criminels qui sont arrivés à rentrer sur un peu plus de territoire et qui sont arrivés à faire fuir la police qui était déjà stationnée dans la zone. Ça qui a créé une situation de panique généralisée et qui, d'un coup, a vidé la zone de ses habitants. Donc, et à partir de ce moment-là, les groupes criminels sont maintenant en position de force pour régner sur tout le territoire et de Solino.
Donc, ça veut dire qu'il y a certains membres de ces groupes armés qui se sont installés dans les bâtiments de Solino, par exemple?
Justement, parce qu'il y a déjà des morts, des tirs sporadiques à longueur de journée. Mais à partir du 17 octobre, c'est, en résumé, on peut dire qu'il n'existe plus de Solino parce que ces gangs-là sont arrivés à pénétrer tout l'espace de Solino et faire fuir tous les habitants de la zone.
Hier, vous avez perdu votre frère. Est-ce que vous savez dans quelles conditions il a perdu la vie?
Et il faisait partie de peut-être pas mal de gens qui sont situés peut-être à quelques mètres et de Solino, parce qu'avec les attaques répétées des gangs, ils ont dû laisser leur maison, mais ils n'ont pas un autre endroit pour aller. Donc, ils sont restés dans la zone du danger et a reçu une balle donc, de ces assassins.
Il a été tué délibérément.
Délibérément.
Qu'est-ce que ça vous inspire?
Bon, la colère et la frustration, une sorte d'impuissance, parce que j'ai grandi à Solino et je suis né à Port-au-Prince. Maintenant, j'ai 37 ans. J'ai passé pratiquement toute ma vie en Haïti. Cette situation qu'on a là, en Haïti, c'est une situation inimaginable. Il n'y a plus d'espoir. On ne peut rien faire avec les autorités qui sont là, et on a vu l'attitude aussi de la communauté internationale, des États-Unis d'Amérique, qui est la première puissance mondiale, donc, et qui dirige au premier plan cette communauté internationale, qui n'ont rien fait pour empêcher cela.
Ils ont quand même financé la mission multinationale d'aide à la sécurité?
Bon, oui, mais...
Il n'y a qu'eux qui les financent pour l'instant?
Oui, mais les États-Unis d'Amérique ne font pas assez pour aider le pays à sortir et de ce chaos. La police haïtienne, on le voit, on l'a vu, c'est une police dépassée, parce que là, on a affaire non pas à des groupes armés, à des gangs, mais c'est un groupe terroriste, c'est une organisation terroriste. Donc, et la police haïtienne, je crois, n'a pas été formée pour lutter contre les terroristes. Et on a vu les récentes attaques sur les avions commerciaux. Donc, ce sont des gens qui incendient les établissements hospitaliers. C'est du terrorisme pur et simple. La communauté internationale doit comprendre qu'on n'a pas les moyens. On ne peut pas avoir une force multinationale pour juste appuyer la police nationale d'Haïti, parce que la police nationale, si elle pouvait le faire, elle aurait le fait déjà. Donc, on veut un appui plus expérimenté dans la matière en termes de lutte contre les terroristes pour intervenir dans le cas d'Haïti.
Est-ce que vous pensez qu'il serait acceptable pour la population haïtienne de faire revenir une mission sous mandat de l'ONU en Haïti?
Bon, la population haïtienne, en général, souhaite avoir la paix et la sécurité. S'il y a un moyen pour aider le peuple haïtien à sortir de cette situation catastrophique, tout le monde serait ravi. Est-ce qu'il s'agit d'une force de la France, des États-Unis d'Amérique ou de n'importe quel pays qui peut venir nous sortir de ce chaos infernal? Ce serait une bonne chose et c'est ça que le peuple haïtien réclame dans les radios, dans les télés, sur les réseaux sociaux.
Témoignage de Wilson Gustave Collin au micro de Vincent Souriau, cet habitant du quartier de Solino qu'il a dû fuir. Et à une dizaine de kilomètres, la police haïtienne s'est déployée dans le quartier de Tabar. Plusieurs unités pour renforcer la sécurité dans le contexte que l'on évoquait à l'instant. Et selon la presse, la situation y est plutôt calme pour le moment. La presse, Christophe Paget, revient évidemment sur cette situation sécuritaire à Port-au-Prince, mais aussi sur la menace d'un nouveau pays loc.
Sur les réseaux sociaux, écrit le Nouvelliste, là où se joue en direct la tragédie des résidents de Solino, il y a d'autres complaintes, celles d'automobilistes, de capitaines d'entreprise, par rapport à une énième rareté de produits pétroliers au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et en province. Car, annonce Gazette Haïti, le terminal pétrolier de Vareux est fermé à cause de l'intensification des violences. Un chef d'entreprise évoque aussi l'impossibilité de sortir des conteneurs de produits alimentaires de la capitale depuis 3 jours. Selon lui, Port-au-Prince coche presque toutes les cases d'un énième pays loc. Alors que, souligne le National, les prix de certains produits alimentaires grimpent sur le marché international et que l'inflation suit sa course en Haïti.
RFI, The World's Voices.
Aux États-Unis, Christophe, ce sont toujours les nominations du président élu Donald Trump qui font la une des journaux.
Et la dernière en date, c'est celle de Robert Kennedy Jr. Il sera ministre de la Santé. Enfin, peut-être. Car, écrit le New York Times, un débat s'est engagé sur le fait de confirmer ou pas Robert Kennedy Jr. car son scepticisme à l'égard des vaccins et ses opinions peu orthodoxes sur la médecine mettent les responsables de la santé publique profondément mal à l'aise. Même débat concernant l'arrivée de Matt Gaetz à la justice. Des républicains du Sénat ont prévenu qu'il aurait du mal à obtenir le soutien nécessaire à sa confirmation, rapporte le Wall Street Journal, à cause des accusations d'inconduite sexuelle qui le visent. Il est entre autres soupçonné de relations avec une mineure. Un rapport sur ces accusations devait sortir, décrit comme extrêmement dommageable par une source de Miami Herald au Congrès. Mais Matt Gaetz vient de démissionner de son siège au Congrès de Floride pour empêcher les auteurs du rapport de, par exemple, l'exclure de la Chambre. Pour autant, écrit le quotidien de Floride, la pression monte pour que le rapport soit rendu public.
La pression qui vient de démocrates, mais aussi de républicains.
Des républicains qui, plus largement, selon le Washington Times, s'interrogent eux aussi sur les choix les plus non conventionnels de Donald Trump pour son gouvernement. En fait, au Sénat, il y a 2 camps. Les républicains qui estiment qu'il faut les confirmer le plus vite possible pour que le président élu puisse avancer. Et il y a aussi les républicains qui ont sorti le drapeau rouge, entre ceux que ces nominations ont fait carrément rire, et ceux qui demandent plus de temps pour les étudier. Et c'est ce qu'a fait justement le New York Times. Voici son analyse. La justice, la défense et le renseignement, ce sont les 3 secteurs du gouvernement qui se sont révélés les obstacles les plus tenaces pour Donald Trump lors de son premier mandat. Du coup, aujourd'hui, il laisse de côté les figures de l'establishment qu'il avait installées à ses postes il y a 8 ans, au profit de personnes dont la qualification la plus importante pourrait être la loyauté à son égard.
Alors parmi les nominations qui font le plus réagir, il y a celle d'Elon Musk, milliardaire, très important contributeur de la campagne de Donald Trump et récompensé par un poste à la tête d'une structure chargée d'évaluer l'efficacité gouvernementale. On en a beaucoup parlé ici. Et ce choix, il est loin de faire l'unanimité chez les Américains, Edouard Maille.
Brandon promène son chien devant quelques restaurants et commerces. Pour le démocrate, le nouveau gouvernement de Donald Trump est un cirque et un spectacle de clowns, en particulier avec la présence d'Elon Musk, l'homme le plus riche au monde.
On a quelqu'un qui ne devrait pas avoir une place dans le gouvernement. Il a une entreprise, SpaceX, qui gagne des millions et des millions de dollars avec des contrats passés avec le gouvernement. C'est clairement un conflit d'intérêts qu'il travaille avec le gouvernement américain.
Joe, employé dans la cybersécurité et électrice de Kamala Harris, ne pense pas que ce futur gouvernement soit la bonne solution.
La grande majorité... Sinon tous, ne sont pas qualifiés et ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. Ils le font pour eux-mêmes, comme Donald Trump.
Tyler, lui, un employé dans le bâtiment et soutien de Donald Trump, n'est pas d'accord.
Je suis pour ce que Donald Trump et son gouvernement essaient de faire pour les grandes entreprises, les petites entreprises, toutes les entreprises. Il essaie de stimuler l'économie. L'Amérique en a besoin.
Mais il estime qu'il faut surveiller et encadrer Elon Musk qui, avec sa richesse et son importance auprès de Donald Trump, pourrait devenir un danger dans les années qui viennent. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Dernière partie de votre revue de presse, Christophe Paget, on va parler de l'inauguration d'un mégaport au Pérou, le terminal de Shangsei, 80 km au nord de Lima, une infrastructure stratégique dans le cadre des nouvelles routes de la soie chinoise.
Et le plus grand port d'Amérique du Sud, soulignant une La Repubblica avec quelques chiffres. D'ici 2025, il devrait contribuer à hauteur de 1% au PIB péruvien. 750 000 conteneurs seront transportés dans l'année qui vient. D'ici à 2030, 700 milliards de dollars d'échanges sont prévus avec la Chine. Un port aussi vu comme une plateforme logistique pour des pays d'Amérique latine pour exporter leurs produits vers l'Asie. El Comercio précise quand même que les pays voisins s'inquiètent de l'impact qu'aura ce terminal sur leur propre port.
Voilà, ce port, il a été officiellement inauguré hier par la présidente et par son homologue chinois présent dans le pays pour la réunion de l'APEC, le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Mais il a été inauguré virtuellement, Christophe, du palais présidentiel pour des raisons de sécurité.
Et dans son discours écrit La Repubblica, Dina Boluarte a étonné en décrivant le Pérou comme un pays de frères, de paix et de développement, ignorant complètement les nombreuses marches qui ont eu lieu au niveau national contre l'augmentation de la criminalité. Et, rapporte El Buo, ce que Dina craignait le plus, ses produits. L'un des membres de la délégation chinoise s'est retrouvé face aux manifestants, malgré l'important contingent policier déployé pendant les jours de grève, destiné à réprimer la population et à arrêter les étudiants.
Christophe Paget, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr. Le président chinois a donc fait le déplacement pour l'inauguration de cet immense port au Pérou. Il ne l'a pas fait à Bakou pour la COP qui se poursuit alors que cette conférence pour le climat continue. Reportage au Canada où les autorités tentent de réduire la pollution marine et pas seulement celle des sacs plastiques ou des rejets de produits pétroliers et chimiques. Non, le pays tente aussi de réduire le bruit sous l'eau. On n'y pense pas forcément, mais le bruit des activités humaines perturbe beaucoup les animaux marins comme les baleines ou les bélugas. Reportage le long du fleuve Saint-Laurent, au Québec, de Pascal Guéricola.
Des bélouvagues, on les appelle. C'est des vagues qui ressemblent à des dos de bélugas, là.
Jumelles en main, Anna Komoguri, du réseau d'observation des mammifères marins, passe des heures à guetter les bélugas, de petites baleines blanches en voie de disparition dans le fleuve Saint-Laurent, qui vivent à proximité d'un chantier maritime et qu'on entend parfois sous l'eau.
On a un périmètre à observer autour, selon le chantier qu'on a, ça peut être du dragage, mettons. Autour du dragage, on a par exemple 400 mètres de surveillance à faire pour pas que les espèces qu'on voit rentrent dans ce chantier-là, ou si ça rentre, on doit arrêter les travaux. Et au niveau du système acoustique, c'est pareil. On a aussi une surveillance acoustique qui est faite en même temps.
On voit vraiment comme des petites lignes très fines qui se succèdent les unes après les autres.
Son collègue, Samidjai Wagner-Beaulieu, suit, lui, sur son ordinateur, l'image du son à très haute fréquence que s'échangent sous l'eau les cétacés pour se repérer des sons inaudibles à l'oreille humaine.
C'est comme un son qui est envoyé. L'animal attend l'écho. Quand il reçoit l'écho, puis l'information qui vient avec cet écho-là, il en renvoie un autre. Ça serait comme un tic, 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 tic. Puis bien, on sait qu'on a une baleine à dents, un beluga, ça peut être un dauphin qui est à proximité.
Je pense qu'il n'y a personne, il n'y a pas un entrepreneur, il n'y a pas une firme conseil qui souhaiterait demain matin faire les manchettes parce qu'ils ont accroché une espèce en péril puis que là, la baleine est moribonde. Et
William Grenier, du réseau d'observation des mammifères marins.
Ça ferait une publicité négative tellement énorme. Donc, règle générale, je pense que les gens suivent bien les consignes. Ça fait en sorte que les animaux marins sont quand même très, très bien protégés.
La surveillance exercée empêche donc les interactions entre les mammifères marins et les engins des chantiers. Mais elle ne les protège pas des bruits sous-marins très forts, comme celui des forages. Samidjai Wagner-Beaulieu.
Les chantiers peuvent produire vraiment des bruits très intenses sous l'eau, ce qui peut avoir des impacts assez importants sur les animaux. Quand il y a des bateaux qui passent, quand il y a des gros bruits, ça les empêche de communiquer parce que ça cache les sons qu'eux émettent. Quand les sons sont vraiment très intenses, donc on peut parler de blessures internes au niveau de l'audition, mais aussi au niveau des organes internes, même la mortalité dans certains cas.
À 3 heures de Québec, le Centre de recherche Innovation maritime s'intéresse justement au bruit des nombreux navires circulant dans le Saint-Laurent. Les chercheurs ont imaginé des résonateurs acoustiques pour l'amoindrir, comme le raconte Jean-Christophe Gauthier-Marquis.
Ce que vous voyez, en fait, c'est un tube qui a été replié sur lui-même en forme de spirale, de sorte que quand le bruit arrive à l'interface, le son va s'auto-éliminer lui-même. Donc la note de musique va rentrer, mais elle ne ressortira pas. Vous pouvez en mettre partout, mais c'est sûr que les endroits privilégiés vont être la coque, par exemple, ou à proximité des machines très bruyantes. La coque étant l'interface entre le milieu marin et ce qui se passe à l'intérieur du navire, bien, c'est sûr que c'est un endroit qui est privilégié.
De leur côté, des lignes maritimes songent à changer leur trajet pour moins perturber la faune marine comme les bélugas. Bruno Véraud de la Société des traversiers du Québec.
Un des critères du projet, c'est de limiter le plus possible les interventions de dragage sur ce site, qui est dans l'habitat essentiel du Beluga, pour justement, étant donné qu'on fait face à un resserrement de la réglementation, il faut trouver de nouvelles solutions, des alternatives pour que notre empreinte environnementale soit le plus minime possible.
Avec la mise en place de la stratégie concernant le bruit sous-marin, les normes à respecter pour ne pas perturber la faune seront plus précises dans les prochains mois. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, et on vous retrouve Tessa Gromane pour parler du leader du mouvement contre la vie chère, Rodrigue Petitot, jugé cet après-midi en Martinique.
Il est ressorti hier soir de 48 heures de garde à vue pour violation de domicile, menace et intimidation sur personne dépositaire de l'autorité publique. La justice lui reproche de s'être introduit sans autorisation dans la résidence du préfet lundi soir. Son interpellation avait provoqué de nouvelles violences urbaines dans le centre de Fort-de-France. Rodrigue Petitot, sous contrôle judiciaire, s'est exprimé à sa sortie du commissariat hier soir vers 22 heures.
Je ne pensais pas passer autant de temps en garde à vue. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide que je serais rentré chez moi. Bon. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que malheureusement, il y a certains événements, certains faits qui viennent entacher le combat. Et quand on est dans des phases comme ça, on essaie d'utiliser les casses, les incendies, pour pouvoir décrédibiliser le travail qu'on fait et pour pouvoir justifier le fait de me garder en garde à vue parce que je suis celui qui crée les troubles, je suis celui qui crée les incendies, les violences. C'est pour ça que je demande toujours à tout le monde que ce combat-là, il faut qu'on continue jusqu'au bout à la mener pacifique. Je sais que c'est pas facile, hein, mais céder à la violence, à la colère, c'est ce que leur donner le bâton pour me battre. Je n'ai agressé personne, je n'ai violé aucun domicile.
Réaction recueillie par Alain Livory de Martinique La Première et l'audience de comparution de Rodrigue Petitot est prévue à 14h au tribunal correctionnel de Fort-de-France. L'épidémie de dengue est officiellement déclarée en Guadeloupe. 544 cas par semaine ont été recensés à la fin du mois d'octobre, soit plus du double qu'en septembre. Avec cette inquiétude supplémentaire, la circulation d'un sérotype rare qui pourrait provoquer un nombre élevé de cas, selon l'Agence régionale de santé. En Guyane, la ville de Macouria a organisé hier un colloque sur l'addiction. Avec une centaine de jeunes, des lycéens et des collégiens, ils ont assisté à des conférences et participé à des ateliers. Le reportage d'Inès Apetovi.
Que ressentent les différents personnages ? On va commencer par Jean-Marc.
Au local résidentiel commun de Soula, ils sont une trentaine à écouter attentivement les contenus proposés par les associations de lutte contre les addictions. Échanges, discussions, ateliers, tout est mis en place pour que ces jeunes macouriens comprennent la dangerosité de la drogue et de l'alcool. Jérémy Narénin est membre de l'association Carude, une association en première ligne auprès des usagers addicts.
Il faut savoir que malheureusement, ces drogues sont partout sur le territoire guyanais, que nous sommes un territoire de transit. Il y a des effets très néfastes de ces addictions sur le mode de vie et le style de vie qu'on peut avoir.
Les secondes du lycée de Matiti montrent beaucoup d'intérêt au colloque, comme Léo Gatt, 15 ans, et Brittany Russell, 16 ans.
J'ai retenu que les addictions, ça peut être très grave, ça peut détruire des vies, des familles, etc.
Ça peut être dangereux pour nos proches. Si on consomme beaucoup, ben on peut devenir agressif.
Il n'y a pas que la consommation de drogue ou d'alcool qui est néfaste. L'addiction aux écrans a aussi été évoquée, ce qui a donné une idée à Léo.
J'aimerais bien aussi lancer le défi, par exemple, pendant une semaine, de pas toucher mon PC. J'aimerais bien négocier avec mon père pour qu'il me donne une somme d'argent.
Attention à ne pas tomber alors dans une autre forme d'addiction.
Un reportage d'Inès Apetovi, Guyane La Première. Bonne journée.
Merci Tessa Gromane et merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais vous restez sur notre antenne dans quelques secondes maintenant. Littérature sans frontières avec Catherine Fruchon-Toussaint. Très bonne journée à tous.